Les soldats, Castellémis, dans Trou Noir sur Radio Libertaire 89.4.
Oui, Castellémis, ça me rajeunit pas. Je me rappelle cette chanson, c'était un peu un tube, enfin en tout cas dans les milieux militants à l'époque. Bien, donc je rappelle qu'on est avec René Berthier et autour et dans son livre Kropotkine et la Grande Guerre, les anarchistes, la CGT et la social-démocratie face à la guerre, donc qui parle effectivement entre autres du manifeste des 16 que les plus connus signé par Prokopkine et d'autres comme Jean Grave et quelques-uns, donc une quinzaine de militants anciens de anarchistes de l'époque, et on avait commencé à évoquer effectivement à la fois les positions de principe anarchistes habituelles et puis le pragmatisme sans doute de ces militants, voire d'autres, mais qui était aussi accentué sans doute par ce qu'ils savaient de la position du socialisme en Allemagne, voire du peuple allemand en général. Et est-ce qu'il n'y avait pas une illusion dans ces milieux, y compris peut-être en Allemagne, parce qu'on avait fait croire aux gens que finalement l'ennemi principal, le centre de la réaction était la Russie, comme ça pouvait être le cas quelques dizaines d'années auparavant. Et est-ce que Kropotkine n'avait pas vu arriver le fait que de plus en plus, finalement, le centre de réaction se déplaçait vers l'Allemagne ?
Alors ça, c'est un débat qui date de Bakounine, en fait, oui. et dans une très large mesure... Kropotkine reprend toutes les analyses de Bakounine qui me paraissaient justes dans le contexte des années 1870, sauf que Bakounine a en quelque sorte été sauvé
par la Commune.
Par la Commune.
Bon.
C'est-à-dire que lui, il préconisait, au début de la guerre de 70, il préconisait la lutte contre l'Allemagne, contre la Prusse, la lutte des prolétaires français contre la Prusse, et la transformation de la guerre impérialiste en révolution sociale.
Ouais.
C'était extrêmement clair. Et,
ouais.
et c'est ce qu'il dit, quoi. C'est la position. Et Kropotkine reprend la même position, en fait.
Ouais.
Il prend les mêmes analyses sur le rôle de la Prusse, de l'Allemagne en général, mais en particulier de la Prusse, dans la géopolitique de l'époque. Et qui n'a pas beaucoup changé, qui s'est accentué même.
Oui, mais attends, je t'arrête, c'est une réflexion que je me suis fait en lisant le bouquin. Mais de fait, quand il y a eu des exemples comme ça dans l'histoire, où justement une guerre a conduit chez un des belligérants à ce qui est un début de révolution sociale, mais est-ce que c'est pas plutôt chez les perdants de la guerre ?
Oui, ça a été le cas en 1870.
Bah voilà.
Ça a été le cas en Allemagne. Il y a eu une révolution ouvrière en Allemagne en 18-19, jusque vers 23, quoi, disons. Et c'était chez les perdants.
Voilà, exactement.
Bon.
Ouais.
Ce que les analystes socialistes de l'époque n'avaient pas vu, quoi, en quelque sorte. Bon. Et le problème de Kropotkine, bon, lui, il disait aussi il faut transformer la guerre en révolution.
Oui, oui, oui.
Et il dit, moi, je serais le premier à y aller, si je n'étais pas aussi vieux, à prendre le fusil pour travailler à la révolution sociale.
Oui, d'ailleurs,
sociale.
On déforme un peu ses propos, parce qu'on interprète ça comme s'il avait proposé d'aller dans l'armée avec les bourgeois et tout. Et c'est pas
non,
ça
non,
qui...
il parle de...
Tu cites clairement.
D'armée populaire, quoi, d'armée sociale. Quoi,
voilà, c'est ça. Bon.
Et c'est extrêmement clair. C'est un aspect qu'on ne connaît pas ou qu'on ne mentionne pas rarement quand on veut taper sur l'anarchisme, comme le font certains marxistes ou certains conseillistes. Leur position n'a pas beaucoup d'importance.
Donc le centre de la réaction, la Russie, ça faisait déjà pas mal de temps que dans le milieu libertaire, en tout cas Kropotkine, Bakounine avait déjà...
Depuis Bakounine, il y avait entre l'un des débats, si on peut appeler ça débat, s'ils n'ont jamais réellement débattu, mais l'un des points d'opposition principaux entre Marx et Bakounine, c'était ça. C'était pas seulement la stratégie des mouvements ouvriers, tout ça, mais ça a été peut-être même surtout ça. Marx considérait que la Russie, la puissance énorme de la Russie à l'époque, on dit dans les années 1860-70, était une entrave à l'instauration de la démocratie en Allemagne. Ce que disait Bakounine, c'est que la Russie, il ne niait absolument pas le rôle réactionnaire qu'avait pu jouer la Russie en Europe, mais dans les années 60-70, ce rôle réactionnaire a été considérablement réduit, voire avait disparu, face à la montée en puissance de l'économie allemande. Et il disait, Bakounine, que la Russie n'avait plus les moyens de ses ambitions en Europe occidentale. Parce que l'Allemagne avait renforcé sa puissance, avait renforcé considérablement sa richesse, et qu'elle était capable de lancer, disait-il, des boulets d'or vers la Russie pour maintenir une hégémonie que la Russie avait perdue, enfin pour maintenir l'hégémonie allemande face à la Russie. Et il explique en quelque sorte que, ne pouvant plus s'étendre vers l'Ouest, la Russie avait fait une sorte de demi-tour droite avait entamé une politique d'expansion en Asie du Sud-Est. C'est-à-dire la Tchétchénie, tout ça. C'est encore très moderne, finalement, c'est très contemporain, quoi. Et vers le sud et vers l'est, quoi. Ce qui se passe en Ukraine, c'est un peu ça aussi. Et on est dans une situation qui est permanente, en quelque sorte. Et donc le centre de la réaction avait été la Russie. La Russie avait perdu ce rôle. Et c'était l'Allemagne maintenant, parce qu'elle avait mis au point des structures politiques centralisées, un empire, Bismarck, une politique agressive, une politique étrangère agressive, et que le vrai centre de la réaction, c'était devenu l'Allemagne. C'est-à-dire que l'Allemagne était le prototype de l'État moderne anti-ouvrier et anti-social, quoi. Voilà. Ça, c'était la position de Bakounine. Alors, c'était évidemment pas celle de Marx. Et Marx disait que la Russie restait un danger et qu'il fallait... En 1848, Marx avait appelé à une guerre contre la Russie. Leur position, celle de Marx et d'Engels, n'avait jamais changé. Il fallait entamer une guerre contre la Russie. Et les socialistes allemands en 1914 étaient encore imprégnés de ce genre de position, quoi. Et le pouvoir allemand n'avait pas eu beaucoup de mal à convaincre les dirigeants social-démocrates que le danger, c'était la Russie. Et donc, Et quand ils ont voté les crédits d'hier, ils ont été manipulés. Mais enfin, je pense qu'ils auraient... Bon, ils n'avaient pas besoin d'être manipulés.
Oui et non, parce que... certains ont peut-être été manipulés, mais il y en a quand même qui savaient ce qu'ils faisaient. Parce que tu dis même qu'en fait, c'est pas forcément les Prussiens qui souhaitaient... le pont germaniste, c'était au moins... si on résume par ce terme-là ce que tu décris un peu, cette nécessité économique ou envie de développer, était largement appuyée, en fait, notamment par les socialistes, quoi. Et que même, tu dis que les Prussiens, finalement, c'était plus s'occuper un peu du nord de l'Allemagne. Bon, le sud, c'était des catholiques et tout ça. C'est pas trop leur truc. Enfin, tu cites en passant un petit peu cet aspect-là. Donc, il y avait vraiment... moi, d'après ce que j'ai compris de ce que tu décris, ils sont pas... en tout cas, pas tous étaient leurrés complètement, quoi. Où ça leur les a rangés dans leur vision, si tu veux, de développer, parallèlement à développer un État allemand fort, de développer leur pouvoir dans le domaine du parti socialiste, des syndicats, enfin des contrôles, parce que c'est ce que tu expliques d'ailleurs. Je pense que ce serait bien de commencer un petit peu à parler de ce développement du syndicalisme, du socialisme, avec le syndicalisme aux ordres allemands.
Je pense que quand les socialistes allemands ont voté, les députés socialistes ont voté les crédits de guerre, ils pensaient que ils votaient une guerre contre la Russie.
Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a dû leur dire.
Je mentionne un texte que j'ai trouvé un peu par hasard. C'est un document écrit par un Américain qui faisait partie d'une ONG, enfin un truc caritatif, quoi, en quelque sorte, et qui s'occupait du sort des Belges qui étaient occupés par l'Allemagne. Et alors pour alléger leur sort, quoi, en quelque sorte, leur situation. Et donc, il se baladait en Belgique et il a rencontré les dirigeants socialistes allemands et les a interviewés. C'est paru dans une revue américaine. Et Bon, je suis tombé dessus par hasard, mais l'interview, enfin, ce que le rapport que fait cet Américain est extrêmement intéressant. Parce qu'il interview Liebknecht, Kautsky, Bebel, qui sont manifestement complètement paumés, quoi.
Bon, d'ailleurs, il fait des commentaires un peu
Il s'énerve après eux, parce qu'il dit, mais comment que des internationalistes comme vous peuvent avoir des positions pareilles? Je crois que c'est Bebel qui dit, mais de toute façon, on occupe l'Allemagne, mais on ne la rendra pas.
Et c'était vers quelle période?
1916, je crois.
Oui, dans la période 1916, d'accord. Ouais.
Mais je pense que... il est possible que Kropotkine ait eu connaissance de cette interview, parce qu'elle a filtré et elle a été publiée par une revue syndicaliste française à l'époque. Et Liebknecht fait des déclarations assez critiques. Mais après, il a fait une déclaration pour nier qu'il avait dit ça. Quoi, parce qu'il avait la trouille de se faire... il avait la trouille de la répression politique. Oui. Et cette interview est intéressante parce qu'on voit les trois plus grands dirigeants socialistes allemands dire « mais tous nos adhérents sont sous les drapeaux, on n'a pas de contact avec eux. » Et on pense à ce qu'avait fait la CGT avec les soldats et les unions locales, enfin avec les bons du travail, le sou du soldat, tout ça. Bon. Et on a 2 millions d'électeurs socialistes qui sont sous les drapeaux, mais on ne sait pas ce qu'ils pensent.
Il y a la censure,
le droit de réunion est interdit, etc. Mais ça reste, tout reste en sous-main, quoi. Et en fait, le parti qui a eu je ne sais pas combien de centaines de milliers d'électeurs aux élections qui ont précédé la guerre...
Oui, ils avaient 110 députés.
Ils avaient 110 députés, se trouvaient totalement paralysés.
Oui. Non, mais c'est quand même assez fou, parce que, bon, même s'ils étaient extrêmement réticents pour faire une... Enfin, non, je crois que tu vas peut-être en parler un peu après, mais sur une grève générale qui empêcherait des guerres, etc., ils avaient quand même signé des textes ils avaient quand même signé des textes contre les guerres, j'imagine, plus ou moins.
Oui.
Et que les voir comme un seul homme, parce que quand tu dis, et ça tu l'as bien souligné dans ton livre, et ça c'est pas tellement connu, parce que pour sauver l'honneur, il y en a qui se sont posés, je crois qu'il y en a une quinzaine, enfin quelque chose comme ça.
Ouais.
Ceci étant, ils ont respecté, comme tout bon allemand, bon j'exagère, mais enfin quand même, assez disciplinés, ils ont respecté la discipline et en fait, ils les ont votés quand même, y compris les
minorités. Moi j'en étais resté, j'en ai été pendant des années à l'idée qu'il y a quand même eu 15 députés socialistes allemands qui se sont opposés au
Kaliningrad. C'est dans ton bouquin que j'ai appris la réalité.
Et c'était en gros ces 15-là qui sauvaient un peu l'honneur du socialisme allemand. C'est un bon, très bien, c'est bien.
Ouais, ouais.
En réalité,
Liebknecht ailleurs, je crois.
On voit ça partout. J'ai lu pas mal de trucs sur le mouvement socialiste allemand.
Ouais.
C'est l'idée que j'avais retenue.
Ouais.
En fait... Il y a eu 15 députés qui ont voté contre lors d'une réunion interne.
Voilà, pour préparer le vote.
Une consultation interne, mais qu'une fois au Reichstag, ils ont adopté la discipline du parti. Bon, ça, c'était au premier vote des crédits.
Oui, parce qu'il y en a eu plusieurs. C'est au début de la guerre, le déclenchement de la guerre.
Il est vrai qu'au deuxième vote, il y a eu deux voix contre.
Dans Liebknecht, je crois.
C'était Liebknecht et...
je m'en rappelle plus.
Autorul, je crois, qui deviendra un conseilliste important.
Enfin, voilà, c'est ça.
Et puis au vote suivant, il y en a eu quelques autres. Bon. Mais bon, à la limite, c'est anecdotique, je veux dire, qu'il y ait 15 députés allemands qui aient voté ou qu'ils se soient abstenus. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance par rapport au reste. C'est-à-dire que on bascule un peu, on quitte un peu le mouvement anarchiste et on s'engage dans le mouvement syndicaliste révolutionnaire, qui est un courant spécifique au mouvement ouvrier français, dans lequel se trouvaient beaucoup d'anarchistes, mais où il n'y avait pas que des anarchistes. Et qui dominait à la CGT au début du XXe siècle. Les syndicalistes révolutionnaires français, la direction confédérale, pour dire ce qui est, a contacté à de nombreuses reprises. Bon, je résume, on est obligé de synthétiser un peu parce que c'est assez complexe. Bon, les événements, quoi, je veux dire. C'est pas complexe, mais il y a tout un tas d'événements et on ne va pas les citer tous. Mais l'idée générale est la suivante. Les dirigeants de la CGT ont contacté de manière obsessionnelle, si je peux dire, de manière insistante, disons, les dirigeants socialistes allemands pour leur dire « Il est évident qu'il va y avoir une guerre entre nos deux pays et il faut qu'on se coordonne pour organiser une grève générale. » Bon. La deuxième internationale, qui s'est constituée en 1889, mais qui s'est constituée réellement en 1896, je dirais. Pourquoi ? Parce que c'est là, c'est à cette date-là que les anarchistes ont été définitivement virés de... Alors peut-être, on va dire deux mots là-dessus. Je m'excuse si on, on fait des zigzags. Mais il y avait des congrès internationaux après la fin de l'AIT... en 1878, disons, des congrès internationaux, des congrès socialistes internationaux se sont été convoqués régulièrement. Et dans ces congrès, il n'y avait pas que des partis socialistes, il y avait aussi des militants anarchistes, syndicalistes révolutionnaires, enfin bon, et des militants qui avaient des positions anti-parlementaires. Et c'est, la présence de ces militants était accepté globalement par l'ensemble des délégués, mais les dirigeants allemands ont, avec ténacité, si je peux dire, tout fait pour parvenir à leur exclusion. Ils ont voté une fois une motion excluant les, non pas, ils disaient pas les anarchistes, mais ceux qui étaient contre la politique parlementaire. Et puis donc ils ont été exclus par la porte, ils sont revenus l'année suivante par la fenêtre. Et parmi les délégués, il y avait Pouget, Pelloutier, enfin des gens qui étaient notoirement connus. Ouais. Ils sont venus en tant que délégués des syndicats.
Voilà.
Bon. Et ça a été assez difficile de les virer définitivement, mais ça a été accompli en 1896. Et
on peut dire... d'autant plus difficile qu'en fait, même si ça s'est traduit, comme tu le dis, par l'exclusion, enfin des anarchistes sur un certain nombre de critères, en fait, sur ces critères, ça tentait d'exclure aussi des gens qui étaient socialistes, mais qui n'étaient pas parlementaristes, alors, ou qui n'étaient pas la direction
absolument.
Du parti sur les syndicats, des choses comme ça.
À cette époque-là, il n'y avait pas les anarchistes d'un côté, les socialistes de l'autre. Bon, c'était plus compliqué.
Oui.
Et dans le mouvement social, les choses n'étaient pas encore cadrées, quoi.
Ouais.
Dans le courant socialiste, il y avait des militants qui étaient socialistes, mais qui n'étaient pas anarchistes, mais qui étaient contre la politique parlementaire.
Ouais.
Il y en avait d'autres qui étaient pour, dans certaines circonstances, si ça valait le coup.
Pour faire les deux.
Dans d'autres, non. Bon, c'était pas. Et il y en a qui avaient fait l'expérience de la stratégie électorale, qui n'avaient pas trouvé ça concluant et qui pensaient que c'était pas concluant. Bon, voilà. Bon, c'était un peu, il y avait toutes les options qui étaient présentes et qui étaient envisageables. Et à partir de 1896, tout ça s'est réglé, quoi. Et c'est pour ça que je dis qu'en réalité, la deuxième internationale se constitue réellement à ce moment-là, en 1896.
Oui, c'est-à-dire qu'elle affiche, les sociodémocrates allemands en particulier, mais c'est quand même eux qui tirent les ficelles dans ce que tu décris, affichent carrément la couleur, quoi. C'est-à-dire que là, maintenant,
on participe aux élections, voilà.
C'est le parti qui dirige les syndicats, etc., voilà. Quoi.
Et on peut dire d'une certaine manière que la présence des anarchistes dans la deuxième internationale, jusqu'à leur exclusion définitive, a contribué à, c'est un peu paradoxal, mais leur présence a contribué à forger
le programme
et la stratégie social-démocrate par approximation successive, si je peux dire.
Oui, par raffinement sur tel et tel débat, et bon, ça tranchait d'un côté, puis finalement, ils sont arrivés à un truc un peu solide, et qu'ils ont essayé d'appliquer un peu à tout le monde, y compris aux socialistes français, qui étaient pas fortement tous sur ces positions-là.
J'avais dit que je ferais un retour en arrière, mais je me souviens plus pourquoi.
Non plus, d'ailleurs. Mais c'est...
Alors, les syndicalistes révolutionnaires français, enfin la CGT, a tenté à de nombreuses reprises d'obtenir...
Ah oui, c'est ça, dont on parlait.
Et la Deuxième Internationale avait fait des motions contre la guerre. Mmh. À chaque congrès, il y avait une motion contre la guerre. Mmh. Mais à aucun moment, il n'y avait... La grève générale n'était pas du tout... Les Allemands étaient catégoriquement opposés à la motion.
Ils refusaient d'en discuter.
Ah, oui, oui. Et aucun moyen n'était mis en place. Et l'opposition à la guerre... se trouvait limité entre les mains de députés socialistes qui interviendraient au Parlement.
Oui.
Ce qui fait qu'en fait, c'est l'endroit même où il était inutile de discuter d'une grève générale.
Sauf pour voter les crédits de guerre, s'ils ont quand même fait. Hein.
Et donc, les dirigeants de la CGT française se sont heurtés à plusieurs reprises à une fin de non-recevoir, à un refus catégorique de discuter de la grève générale, jusqu'au dernier moment. Quelques jours avant la déclaration de la guerre, il y avait eu une rencontre entre les dirigeants allemands et français, et les dirigeants français sont rentrés écœurés, quoi, complètement désespérés.
Tu décris un peu un compte-rendu, je ne sais plus de qui, à qui il était, effectivement.
Ils étaient. L'argument des dirigeants allemands, c'était. La grève générale est contre la guerre est une action politique. Il faut que vous voyez ça avec la direction du Parti socialiste français.
Bah oui, bah oui. Bon. Puis, bien sûr. Nous,
et c'était une manière de botter en touche, évidemment.
Nous, en tant que syndicalistes, on attend les ordres. Enfin, ils disent pas ça comme ça, mais c'est ça l'idée du Parti socialiste démocrate allemand. C'est lui qui dirige les affaires dans ces cas-là, puisque c'est
politique. De toute façon, les syndicalistes français qui voyaient des Allemands pour parler de la guerre, voyaient la direction. Oui, enfin, ils voyaient à la fois les dirigeants syndicalistes et politiques, quoi.
Et en plus, bon, bah là, tu parles juste de ce qui s'est passé, bon, juste avant le déclenchement de la guerre, mais il y avait déjà eu des éléments extrêmement concrets. Au-delà de discuter sur des choses, mettre en place des manifestations communes, etc., pendant ce que tu as évoqué, c'est-à-dire, la guerre au Maroc, après, il y a eu la guerre des Balkans, enfin, qui ont précédé, enfin, toute l'atmosphère qu'il y avait. Il y a eu tout un tas comme ça de dates pendant lesquelles la CGT a continué à essayer, si tu veux, effectivement, de mettre en place. Enfin, c'est ce que tu décris. Et à chaque fois, c'était. Il y a eu des choses en Espagne. Il y a eu des choses, mais ça a été très difficile. Pratiquement, c'est pas possible de faire des choses en commun. Quoi.
Non. Alors, les militants révolutionnaires purs et durs, anarchistes ou non d'ailleurs, ont été un peu injustes avec la direction confédérale de la CGT. Je pense. Hein. Bon, c'est pas parce que j'ai été 40 ans à la CGT. Mais
tu n'y étais pas à l'époque quand même.
Mais j'y étais pas à l'époque. Non. Mais ils ont été injustes. Parce que on dit l'échec d'organiser une grève générale et de parvenir à arrêter la guerre par une grève générale est imputable à la direction de la CGT et au syndicalisme révolutionnaire parce que ils n'ont pas été assez révolutionnaires. En gros, c'est le cœur de l'argumentaire. En réalité. L'échec de cette... Il y a eu une grève générale qui a été organisée par la CGT en 1912.
En décembre de 1912, je crois.
Il y a eu 600 000 grévistes, ce qui n'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal.
Oui, c'est pas 20 000. On regarde comment ça se passe.
Et cette grève générale a été organisée avec l'assentiment d'une grande partie ou quasiment la totalité des délégués présents au congrès qui a décidé.
Oui, ils ont fait un congrès extraordinaire.
Il y a eu un congrès extraordinaire.
C'est-à-dire qu'ils devaient faire, si je me souviens bien, ils avaient prévu une rencontre des fédérations, des syndicats et des bourses du travail. Et vu l'urgence, c'était en pleine période, je ne sais plus, début de la guerre des Balkans, des choses comme ça. Ils ont dit, on fait un congrès extraordinaire. Et ce qui en est issu, c'est cette grève générale. Voilà. Enfin, un schématisme.
L'écrasante majorité des délégués a approuvé l'organisation de cette grève générale. Donc, elle a eu lieu. Elle a été suivie par une répression terrible contre les anarchistes, qui, à la CGT, étaient très actifs, mais en dehors de la CGT aussi, qui soutenait cette grève générale. Donc il y a eu une répression assez terrible contre les anarchistes, mais aussi contre les dirigeants syndicalistes. Bon. L'autre point, c'est qu'on ne peut pas faire reproche aux syndicalistes. au mouvement syndicaliste révolutionnaire l'échec de cette grève ou une perspective d'arrêt de la guerre. Dans la mesure, en 1912, le syndicalisme révolutionnaire avait perdu pied. On ne peut en aucun cas qualifier la CGT entre 1912 et 1914, à la veille de la guerre, de syndicaliste révolutionnaire. Parce que les réformistes y avaient obtenu une grande partie des mandats. Certains mandats qui avaient été attribués à des syndicalistes révolutionnaires étaient encore en place, mais progressivement, ces mandats étaient perdus. Et c'était des réformistes qui les remplaçaient. Donc c'était une période de déclin du syndicalisme révolutionnaire. Alors on peut dire que le syndicalisme révolutionnaire avait régressé en 1914, mais on ne peut pas attribuer au syndicalisme révolutionnaire l'échec d'un mouvement contre la grève. Il y a eu des fédérations qui ont adhéré à la CGT, qui étaient dirigées par des réformistes et qui regroupaient beaucoup de monde. Et progressivement, le courant syndicaliste révolutionnaire perdit pied. Bon.
C'est une parenthèse, mais en quelques mots, à quoi tu attribues, si tu veux, ce repli des positions syndicalistes révolutionnaires? Alors, est-ce que c'est lié à la montée des partis socialistes, pas uniquement qu'en France? Est-ce que c'est lié justement à la difficulté de créer un mouvement international qui donne quand même l'espoir de peser pas uniquement sur le milieu français? Est-ce que c'est une amélioration, je ne sais pas, de la situation des ouvriers? Ça doit être une série de paramètres qui expliquent ça.
Bon, je pense que c'est un phénomène complexe, mais il est lié à l'extension des pratiques électorales.
Oui.
C'est-à-dire que quand un phénomène social ou un type d'activité s'implante, il peut faire illusion et les gens peuvent adhérer à ce type de pratique parce qu'ils pensent que c'est plus simple ou c'est moins dangereux.
L'ouvrier moyen, hein, que je respecte totalement, il n'a pas forcément envie d'être sur des barricades forcément tout de suite, s'il y a la possibilité, ou il risque moins sa peau ou son travail.
Sans aller sur les barricades simplement faire grève, quoi.
Une grève, à l'époque, tu peux quand même avoir des problèmes.
Au
niveau du boulot. Ouais.
Et donc, je pense que à partir du moment où la pratique... Et il y avait l'exemple allemand qui avait de nombreux députés socialistes.
Oui, et puis à chaque élection, ils avaient de plus en plus de voix.
Et les socialistes français répercutaient les victoires électorales de leurs camarades allemands, etc. Ouais. Ils criaient ça sur les toits, ce qui était de bonne guerre.
Oui, c'est un élément important. Hein.
Et donc, je pense qu'une grande partie des ouvriers français se sont ralliés à cette stratégie parce qu'ils pensaient qu'elle était... moins dangereuse, plus efficace, plus bon. En réalité, dans un autre texte que j'ai écrit mais qui n'est pas publié, j'ai un peu analysé ce phénomène sur, par exemple, le travail des enfants.
Ouais.
Et en Belgique et en Suisse. Mais là, on est dans les années 1875, par là. En Belgique, il y avait eu des accidents. Les enfants de 10 ans travaillaient dans les manufactures, dans les mines, dans les usines de textiles, etc. Bon. Et souvent, le gamin de 7 ans arrivait endormi sur les épaules de son père à 5 heures du matin. Bon, et le père le réveillait pour qu'il aille bosser. Et il bossait 14 heures par jour. Bon. Et donc, dans ce contexte-là, il y a eu en Belgique un certain nombre d'accidents horribles d'enfants qui ont été tués. Et il y a eu un mouvement pour obtenir des réformes sur le travail des enfants. Et à ce moment-là, en Belgique, il y avait encore l'héritage de l'international anti-autoritaire était encore vivant, mais avait beaucoup décliné. Face à la stratégie parlementaire. Bon. Et donc, il y a eu une question qui s'est posée. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on emploie la méthode lutte de classe? On fait grève et on impose au patron des mesures pour améliorer le travail des enfants? Ou est-ce qu'on y va par la manière légale, électorale, etc.? Et finalement, la manière légale a été adoptée en Belgique et en Suisse. Le débat s'est posé aussi en Suisse. Et il a fallu quasiment deux générations pour obtenir l'interdiction du travail des enfants en dessous de 16 ans, etc. Bon, ce qui fait que la manière légale, finalement, l'efficacité de cette méthode-là, elle est, à mon avis, très contestable. Et je reste convaincu que, même dans le contexte de l'époque, une bonne grève générale aurait été beaucoup plus efficace.
Oui, tout à fait. Bon. Mais, en fait,
mais on ne peut pas le savoir, puisque c'est l'autre méthode qui a été adoptée.
Bah oui, oui, tout à fait. Mais est-ce qu'on peut pas dire, est-ce qu'on peut dire que donc dans l'époque, notamment dans le mouvement socialiste, il y a eu un terme que j'avais vaguement entendu et que tu reprécises ce qu'on appelait les Français, ce qu'on appelait les possibilistes, qui pouvaient aussi avoir le versant au niveau syndical. Est-ce que ce n'était pas quelque chose qui était un peu dans l'air du temps, effectivement, avec cette image parce que tu parles des succès électoraux des socialistes allemands, mais aussi le syndicalisme allemand, c'était une puissance, y compris économique, y compris ils avaient plein de bureaucrates, j'imagine des coopératives, des tas de choses. Enfin, tout un appareil qui pouvait, on pouvait imaginer qu'à terme, ça allait servir pour des choses très importantes. Enfin, alors, il y avait tout ce phénomène-là, c'est ça, c'est ce que vivaient les gens de l'époque. Alors, on peut toujours dire avec le recul, tout ça, c'était du pipeau, on a vu comment ça a servi pendant la guerre, où ils ont préservé cet appareil syndical et politique au détriment des intérêts des populations.
Oui, tu as raison de parler de ça, parce que dans le mouvement socialiste et syndicaliste allemand, c'était un mouvement qui était propriétaire d'une quantité invraisemblable de bâtiments.
Ouais.
Ils avaient créé des écoles, des théâtres, des tout un tas d'institutions qui faisaient travailler des centaines de milliers de gens. Donc, qui étaient dépendants de la social-démocratie pour leur travail et qui vivaient en fait comme des petits bourgeois. Et ce capital immobilier énorme était quelque chose que les dirigeants socialistes ne voulaient pas perdre. Et il y a un moment où Engels évoque cette question, si on commence une guerre, on va tout perdre. Et je pense que ça a été une des raisons de l'absence d'enthousiasme des dirigeants allemands à s'engager dans une grève générale.
Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine logique, en tout cas auprès d'une certaine social-démocratie, et après on va passer à une pause musicale, et d'un certain marxisme, de préserver l'appareil avant tout au détriment des intérêts réels? Alors,
préserver l'appareil, c'est une chose. Préserver un capital énorme, c'est autre chose, quoi. Je veux dire, c'est pas de même nature.
Oui, oui.
Préserver l'appareil, à la limite, c'est compris, c'est normal, je veux dire. Je pense, par exemple, le Parti communiste français, qui a l'air au minimum de sa santé, si je peux dire. Il a connu des périodes comme ça déjà dans l'histoire. Mais ils sont organisés. Il y a un noyau dur qui est prêt à profiter des circonstances, si les circonstances sont favorables, pour redémarrer. Mais ça, c'est préserver l'appareil, c'est normal. Je veux dire, même les anarchistes espagnols faisaient ça aussi. Bon. Mais là, c'est à un autre niveau.
Sauf que préserver l'appareil en prenant des postes de ministre, ayant un journal qui n'a pas le droit de parler de lutte de classe, si je me souviens bien, puisqu'ils ont pu paraître. C'était comment d'ailleurs?
Fort Vert, qui a continué
à apparaître pendant toute la guerre. Donc effectivement, ça a permis de préserver certains immeubles et certains bureaucrates, mais enfin, ils sont allés quand même un peu loin.
Il y avait eu des accords entre les socialistes allemands et le gouvernement, justement, ce que tu disais. Alors que le journal des socialistes n'était pas affiché dans les gares, là, il a été affiché. La condition, c'était que le journal socialiste ne parle pas de lutte de classe. Et il y avait même une association patriotique allemande, j'en parle à un moment, je crois, qui s'était constituée avec de vieux réactionnaires, des hyper réactionnaires, qui avaient décidé de se dissoudre et de transférer tous ses biens à la Croix-Rouge. Cette association avait pour fonction de lutter contre les socialistes. Elle avait décidé, en Assemblée générale, je suppose, que cette lutte n'avait plus lieu d'être. Et donc, elle s'était dissoute.
Les socialistes étant du bon côté, maintenant. Un peu de musique, pas trop militaire, mais quand même.
Si, vous allez voir. Thank you.
Vous n'êtes pas au monument aux morts. Vous n'êtes même plus dans les mémoires, comme vos compagnons de la mer Noire. Vous êtes mort, et deux fois mort. À vos petits-enfants, on ne répète jamais comment finit leur grand-papa. Il y a des choses dont on ne parle pas. Mutin de 1917. Sur votre dos, les Joffre et les Nivelles faisaient carrière dans les états-majors. Leur humeur décidait de votre sort. Aujourd'hui, qui se le rappelle? Au lieu de s'emmerder en garnison, au lieu de piétiner au même grade, c'était le temps béni de l'empoignade. Vous parlez d'une belle occasion. Vous aviez fait tant d'assauts inutiles, juste pour corser le communiqué. Vous vous sentiez tellement cocufié, tellement pris pour des imbéciles, que vous avez voulu que ça s'arrête. Cet abattoir tenu par la patrie, cette nationale charcuterie, mutin de 1917. Avant l'attaque, arrivaient les cercueils, et vous coupiez votre pain sur leur planche, tout juste si le crêpe à votre manche n'annonçait votre propre deuil. Par malheur, la France n'était pas prête. Se révolter lui paraissait énorme. Elle bavait encore devant l'uniforme. Mutin de 1917. L'histoire vous a jeté dans ses égouts, cachant sous les flots de la Marseillaise qu'une bonne moitié de l'armée française brûlait de fer comme vous. Un jour sortirez-vous des oubliettes, un jour verrons-nous gagner votre cause. J'en doute. À voir le train dont vont les choses, mutin de 1917, mutin de 1917.